are powerful.
We run this mother.
La femme puissante est un genre de monstre.
Y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire à du clito.
Femme puissante, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Eh bien nous, cet été, chaque samedi, nous célébrerons une femme puissante. Écrivaine, dirigeante, rabbine, femme politique, photographe ou actrice. Et ce samedi, une femme derrière un objectif. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Studio Bettina Reims.
Bonjour Bettina Reims.
Comment ça va?
Vous allez bien?
Mais bien et vous?
Oui.
Donc là, on est dans votre bureau, c'est ça?
Là, on est dans mon bureau, oui. C'est... Absolument.
C'est pas là où vous photographiez?
Non.
C'est là où vous réfléchissez?
C'est là où je réfléchis. Quand je réfléchis, en ce moment, je ne réfléchis pas.
Ah oui?
Non.
Pourquoi?
Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi réfléchir. Il y a des moments comme ça où rien ne vient.
Ouais.
Et on se dit que ça ne viendra plus.
Ouais.
Et où...
On voilà. est dans cette phase-là.
On est dans cette phase-là.
Je n'ai plus d'espoir et puis j'aurai plus d'idées.
Et peut-être quelque chose de... Je ne comprends plus quelque chose de mon temps, je crois.
Ah oui?
Oui, bizarrement. J'ai l'impression... Mais je ne sais pas, je croise des choses. Puis je me dis... j'ai l'impression d'être déconnectée. Moi, j'ai grandi dans les années 70. C'était des années... très joyeuse, très optimiste, on sortait de la guerre, enfin on était déjà sortis, mais il y avait un vrai optimisme, quoi. On croyait qu'on allait construire quelque chose de formidable dans ce pays, et puis tout d'un coup, je sais pas, tout s'est resserré, tout a rapetissé, je trouve pas ma place. Je dis ça, et puis peut-être dans 3 mois, je l'aurais retrouvé ailleurs. Mais là, en ce moment, je ne trouve pas ma place.
Dans les années 90, vous avez réalisé une série qui s'appelle « Chambre close » où vous proposiez à des femmes rencontrées dans la rue, vous alliez voir une femme dans la rue, vous lui disiez « Montez avec moi, je vous photographie nue ». Et quasiment toutes les femmes à qui vous avez demandé, quasiment toutes, ont accepté. Est-ce qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, vous pensez qu'elles accepteraient ou les choses ont changé ?
Évidemment pas. Je crois que sur 97, 3 ont refusé. Ce serait impossible aujourd'hui.
Pourquoi?
Parce qu'elles se méfieraient. Parce que... Les photos se retrouveraient immanquablement sur des réseaux sociaux. Parce qu'immanquablement, elles se feraient accabler d'injures et traiter de salopes. Et que je le ferais pas aujourd'hui. Je veux dire,
Vous n'auriez même pas l'idée de le faire.
J'aurais pas l'idée de le faire. Et puis je crois que ce serait pas juste de faire ça aujourd'hui. Je crois que c'était... Il y a 30 ans, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, ça voudrait plus dire grand-chose. Je veux dire, quand les femmes se mettent nues dans les publicités pour vendre du saucisson ou du fromage, je veux dire, ça n'aurait plus beaucoup de sens.
C'est une femme qui aime photographier les femmes, toutes les femmes, les actrices, les stars, mais aussi les détenues, les fémènes et les putes, ou même juste une femme croisée comme ça dans la rue et dont le visage la saisit. Ces clichés mondialement connus sont glamour, sensuel, mais surtout ils vous frappent, vous bousculent, vous provoquent. Elle dit qu'avant d'être photographe, elle n'était pas quelqu'un d'intéressant. Elle aurait pu se contenter d'être une héritière, fille d'eux, amie des gens puissants, mais elle a préféré travailler et devenir l'une des plus grandes photographes du monde. On l'imaginait un peu froide, pleine d'assurance. Mais ce jour-là, quand elle nous a reçus dans son studio labyrinthe dans le Marais à Paris, en pull noir et Stan Smith aux pieds, elle était mélancolique et tendre, et généreuse aussi. Bettina Reims est notre invitée. Bettina Reims, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi ?
Non, je pense que pour moi la puissance...
Qu'est-ce qui vous fait peur dans le mot puissance ?
Je sais pas, quelque chose qui serait pas totalement propre.
Avec quelque chose de sale à la puissance ?
Ouais, enfin ça frise quelque chose qui me plaît pas beaucoup.
Mmh. Parce qu'il y a une forme de domination, une volonté d'être...
Il y a une forme de domination, il y a peut-être une forme de...
D'ambition ?
D'ambition, évidemment. Mais ça,
l'ambition, vous l'assumez ?
L'ambition, je l'assume. On est obligé d'assumer qu'on a de l'ambition. Je veux dire, on travaille pas comme je l'ai fait pendant tant d'années. Et on dit, c'est arrivé par hasard et tout ça, je l'ai pas voulu. C'est pas vrai, je l'ai voulu. L'ambition, je l'avais. Je sais pas si je l'ai encore. Mais la puissance, c'est autre chose.
Est-ce que c'est masculin, la puissance ?
Peut-être que oui.
Ah.
Mais ça va à l'encontre de mon travail, parce que je dis, les femmes que je photographie sont puissantes, ou je les rends puissantes, ou je les rends fortes et fragiles à la fois. Je pense que la puissance, c'est un mot compliqué. C'est un mot que j'aime pas.
Bien. Mais on va continuer quand même sur l'idée de la femme puissante, même si vous n'aimez pas ce mot. Vous avez une prédilection pour photographier les femmes puissantes, les femmes fortes en tout cas, les femmes qui ont de l'aspérité, les femmes qui ont de la personnalité. Vous dites d'ailleurs, l'homme est moins complexe que la femme, moins multiple, plus simplet peut-être.
Ah, plus simplet, c'est sûr.
Ils vont pas aimer.
Ils vont pas aimer. Non, mais je pense que j'aurais pas pu faire tout ce travail avec des hommes. Il y a moins d'aspérité chez les hommes. J'ai l'impression de les traverser plus vite, de les découvrir plus vite, d'en arriver plus vite au bout.
Oh, il y en a quand même avec qui on peut jouer. Marlon Brando, vous l'avez photographié ?
Marlon Brando, j'aurais fait n'importe quoi pour Marlon Brando. Mais non.
On aurait toutes fait n'importe quoi pour Marlon Brando.
Je lui ai parlé plusieurs fois au téléphone.
Ah.
C'est déjà pas mal, parce que la voix était magnifique.
Hey, Stella! What'd you do, fall asleep in there? Hein?
Mais on s'est pas rencontrés.
Ouais. Est-ce qu'il y a un homme avec qui vous avez pu jouer un peu?
Photographiquement,
oui.
Ou dans la vie?
Non, photographiquement.
Photographiquement, avec qui j'ai pu jouer? Avec Michael Douglas, on a joué beaucoup. Mais c'est surtout avec des acteurs, je dois dire.
Vous êtes une femme qui a fait peur, qui a pu faire peur, qui fait peut-être encore peur, non?
Je sais pas, peut-être parce que je suis un peu sauvage, parce qu'on me voit pas. Parce qu'on ne me voit pas dans des endroits publics, parce que les gens ont l'impression qu'il faut être quelqu'un d'important ou de célèbre pour rentrer ici.
Alors que ce n'est pas vrai.
Non, on peut sonner à la porte. Si je suis là, je suis là. Il m'est arrivé d'avoir des conversations avec des gens dont je ne savais même pas qui c'était.
Mais c'est vrai que vous êtes entouré d'un halo. On a l'impression que vous êtes entouré de... Vous connaissez tous les gens célèbres du monde, presque, Bettina Reims, on a l'impression.
J'ai connu beaucoup de gens célèbres. Aujourd'hui, je suis un peu en retrait. Mais oui, je connais beaucoup de monde, bien sûr.
On en revient de la célébrité, de ce petit monde-là ?
Je les ai connus, mais à part quelques-uns, vraiment très peu, ça n'a jamais été des amis. Je dîne pas. Je fais mon travail, et je le fais tant qu'il faut le faire, et puis après je rentre chez moi.
Lesquels sont restés des amis ?
Oh, plein. Jacques Chirac.
Ah, Jacques Chirac, c'est étonnant, c'est un des rares hommes que vous avez photographié, oui. Puisque vous avez fait sa photo officielle en 95, quand il
est
premier mandat.
Ouais, c'est quelqu'un qui a été un ami et qui a beaucoup compté pour moi.
Décontracté, en tenue de ville, mais sur fond de verdure. Voilà le style officiel que le président Chirac veut afficher dans les 36 000 mairies françaises. C'est Bettina Reims, photographe des stars, qui a réalisé le cliché dans les jardins de l'Élysée.
Juste un mot sur Jacques Chirac. Quel mot vous vient à l'esprit quand vous évoquez Jacques Chirac, quand vous pensez à lui ?
Tendresse.
Pourquoi ?
Parce que c'était quelqu'un d'incroyablement tendre avec les gens qui étaient ses amis. Et on l'a décrit comme un tueur, parce qu'il a probablement tué ses rivaux politiques ou ceux qui auraient pu lui faire de l'ombre. Moi, j'ai connu un homme exquis, drôle, délicieux, présent dans des moments difficiles, toujours.
Roger, comment allez-vous ? C'est gentil d'être venu ce dimanche matin pour nous accueillir. Comment va, M. Coudert ? Ça va ? Votre santé, ça se maintient ? Comment allez-vous ? Bonjour, monsieur.
Est-ce qu'il avait quelque chose de féminin, Jacques Chirac ?
Ah non, pas du tout, c'était un cow-boy.
C'est l'homme, quoi.
C'est, ouais, ouais, j'aime bien ça.
Il y en a un autre aussi que vous avez photographié, un homme que vous avez photographié en femme.
Oh,
Gainsbourg, 1982, Gainsbourg déguisé en femme.
Déguisé en femme, dans un tailleur blanc avec une perruque à côté de son garde du corps.
Vous aviez oublié?
Oui, ça m'était complètement sorti de la tête. Mais maintenant, tout revient. Il s'appelait Fifi, il portait un perfecto noir et c'était pour Actuel. Je l'ai mal connu. J'ai photographié peut-être deux fois. Il parlait pas beaucoup, il était dans son coin, il marmonnait, il clopait. Il s'intéressait pas beaucoup aux gens autour. J'ai pas de souvenir particulier avec Gainsbourg.
Oui, il vous a pas marqué?
Non.
Mais vous aimez sa musique quand même?
Oui, j'aime bien sa musique. Alors... Mais j'écoute pas de musique.
Ah oui?
Bah non.
Jamais?
Jamais.
Pourquoi?
J'ai arrêté un jour d'écouter de la musique.
Quand?
Il y a 20 ans.
Pourquoi?
Je peux pas dire. Je peux pas dire. C'est de l'ordre de quelque chose que je peux pas raconter. Mais un jour, j'ai arrêté d'écouter de la musique. J'écoutais beaucoup de musique. Beaucoup. Je vivais avec de la musique. Et j'écoute pas de musique. J'ai même pas de radio. J'ai même pas de truc pour faire de la musique. Alors pendant longtemps, j'écoutais plus de musique, mais je mettais de la musique quand je faisais des photos. Et ben maintenant, j'en mets même plus.
Pourquoi? Ça vous rend triste? Ça vous rend mélancolique là? Ouais. Ça vous rappelle trop de choses et...
Probablement, probablement.
Et donc vous fuyez la musique?
D'abord, la musique d'aujourd'hui, je ne la connais pas. Et qu'en musique, au fond, on n'aime que ce qu'on connaît, je crois. C'est vrai en tout d'ailleurs. Et le reste, les choses que j'écoutais quand j'étais jeune ou plus jeune, ça me rend triste.
Je vous ai demandé d'apporter un objet qui symboliserait la puissance des femmes. Vous avez amené quoi?
Peut-être un portrait de Patti Smith, c'est pas mal.
Un portrait de Patti Smith.
Un portrait de Patti Smith.
C'est vous qui l'avez faite?
Non, c'est Mapplethorpe.
Ah oui. Pourquoi elle?
Parce que ça a toujours été une de mes héroïnes.
Pourquoi?
Parce que c'est une femme forte, parce que j'aime ce qu'elle chante, j'aime ce qu'elle représente, j'aime la liberté qui a été la sienne, j'aime ce qu'elle écrit, j'aime qu'elle ne se soit pas laissée piéger par tous ces canons de l'ultra-féminité, qu'elle ne soit pas passée par des transformations, des liftings, des machins, des cheveux, des trucs.
C'est étonnant venant de vous qui avez toujours sublimé les femmes, glamourisé les femmes, montré leur forme dans votre travail, notamment dans le travail de la mode. Et vous me dites, ce que j'aime chez elle, c'est que justement, elle n'a pas joué ce jeu,
ouais,
ce jeu-là.
Oui, et ben, ça me plaît parce que c'est une preuve d'une immense liberté et d'un anticonformisme incroyable.
Patti Smith, vous l'aimez tellement que vous avez choisi ça comme disque représentant les femmes. On va l'écouter.
Power.
Patti Smith donc. People have the power, c'était le choix musical de Bettina Reims.
C'est une chanson sur le pouvoir chantée par une femme. Mmh.
Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson ?
Que les gens ont la liberté et le pouvoir de faire avancer leur vie comme ils veulent ou quelque chose comme ça. C'est un message de ça, de liberté.
France Inter, femme puissante, Léa Salamé.
Être photographe, c'est être un artiste ?
Ah, je crois, oui. Je crois. Être photographe, c'est une espèce d'énorme... C'est un énorme... Ça regroupe tellement de choses. Je veux dire, on peut être photographe de tennis ou de course automobile ou de...
Ou de guerre.
Ou on peut être photographe de guerre, ou on peut être...
En quoi c'est de l'art ?
En quoi c'est de l'art ? Mon travail n'est pas... C'est pas un travail de reporter. C'est pas le réel qui m'intéresse. Je fabrique mes images comme un peintre fabriquerait un tableau.
Alors c'est marrant votre parallèle. Il y a un très grand photographe qui aimait les femmes comme vous et les femmes nues comme vous qui fait le parallèle entre un photographe et un peintre. Écoutez, c'est Helmut Newton.
Moi je regarde beaucoup la peinture et très souvent je tire beaucoup. Bien sûr, il n'y a rien à voir... la photographie, la peinture, mais il y a quand même le fait que c'est quelque chose ou sur papier ou sur film, c'est quelque chose à regarder. Mais la grande différence, pour être un peintre, il faut avoir énormément de talent, vraiment de génie. Et pour être un très bon photographe, il ne faut pas être un génie, c'est une autre chose. Il ne faut pas être un grand artiste.
Mais ça, c'est le paradoxe de... Helmut Newton, que j'ai bien connu parce que c'était mon maître, il pensait qu'il était un grand artiste.
Ah, donc il ment là quand il dit
oui,
ça.
Oui, je pense qu'il ment quand
il fait de la fausse modestie.
Et il fait de la fausse modestie et c'était un artiste et un très très bon artiste.
Il pense qu'il est un génie.
Un génie, est-ce qu'on pense qu'on est des génies ? Personne pense qu'on est des génies. Je veux dire,
en tout cas, il pensait qu'il était.
On n'a pas peint le plafond de la chapelle Sixtine.
C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit un peintre, la différence entre moi, Helmut Newton, et un peintre, c'est que. Et Michel-Ange, c'est qu'il a, il a fait la chapelle Sixtine et pas moi.
Oui, il y a combien de peintres qui sont Michel-Ange ? Je veux dire, alors, dans l'art contemporain, il y a combien de génies ? J'en sais rien.
Je vous pose la question. Pas tellement ?
Je sais pas, sans doute pas tellement. Il faut le temps, c'est le temps qui fait le ménage.
Ce soir, sur le divan d'Henri Chapier, Bettina Reims, elle tient de son père Maurice Reims, célèbre commissaire-priseur, la résolution farouche de se fabriquer à son tour un prénom glorieux.
Bettina Reims, bonsoir. Maurice Reims, bonsoir. Pierre Berville, bonsoir.
Bonsoir.
Alors ça, c'est toi en train de photographier le mannequin le plus cher du monde, non ? C'est René Simonsen.
En direct du Fouquet du Salon Louis de Luc commence le Pop Club. Nous attendons Bettina Reims qui a fait un album superbe.
Laissons parler,
oui,
Bettina.
Oui, vous m'empêchez de parler.
Je vous fais la
Pourquoi
soirée.
Vous avez... Non, mais vous allez voir, il y a un lien entre vous beaucoup plus fort que vous ne pouvez l'imaginer. Oui, les poules.
Et puis sur la couverture, il y a une magnifique tête d'animal, c'est un mouton.
C'est un mouton.
Vous aimez les animaux, Bettina Reims, ou pas ?
En réalité, pas vraiment.
Mmh. On est loin, là, de l'image très glamour à laquelle on peut vous associer. D'ailleurs, malentendu.
Vue de profil.
Je me vois comme... Comme quelqu'un qui poursuit comme ça une petite route parallèle.
On croise Naomi Campbell, Charlotte Rampling, des inconnus, Monica Bellucci. Quant à la Joconde, elle prend le métro. Et à chacun de faire son jeu. Bonjour Bettina Reims.
Bonjour.
Il fallait des visions, il fallait des fantasmes pour tenter quelque chose comme ça. Comment c'est venu ?
Ah ben je crois que c'est entièrement une histoire de fantasmes.
Sexuellement parlant, par exemple, les Godemichés, elle ne les empoigne pas. Elle est toujours en train de les tenir presque du bout des doigts.
Bonjour et bienvenue dans Pop, Pop, Pop.
Bonjour Antoine.
Vous allez bien ?
Je vais très bien.
Et je m'en réjouis.
Elle voulait vivre cachée derrière son objectif et célébrer les femmes avec ses clichés. Elle est aujourd'hui aussi célèbre que les stars qu'elle photographie.
La célébrité, ça a été un moteur ? Être connue ?
Non, pas du tout, parce que j'ai pas le sentiment d'être connue. Probablement des gens qui aiment la photographie, mais c'est pas ça être connue. Être connue, c'était se promener dans la rue avec Johnny Hallyday ou avec Mylène Farmer. Ça, c'est être connue. Je veux dire, de voir les gens tomber par terre. Moi, je suis pas connue, mon travail est un peu connu.
Est-ce que vous vous trouvez belle ?
Ah non.
Vous êtes une très belle femme, je me permets de le dire, et pourtant j'ai lu dans des interviews que jeune, vous vous trouviez moche.
Ah bah j'étais objectivement très moche, oui, j'étais obèse.
C'est quoi obèse ? C'est au-dessus de 60 kilos ?
Ah oui, enfin...
Ça, c'est pas obèse.
À 8 ans, j'avais 60 kilos. J'étais obèse, on m'habillait en... en taille 18 ans, c'était très humiliant. Et mes parents étaient très humiliés. Mon père ne voulait pas que je sorte de ma chambre. Il ne voulait pas me montrer.
On va parler de votre père, Maurice Reims. Au fond, vous avez voulu être belle pour plaire à votre père, parce qu'il n'aimait que les belles femmes, et qu'il avait un peu honte de vous parce que vous étiez un peu grosse, c'est
ça ? Non, mais comme je n'étais pas belle, à mon sens, je ne me trouvais pas assez belle pour lui. Et une des hypothèses, parce que j'y ai beaucoup réfléchi, c'est que je lui ai offert des femmes belles.
C'est-à-dire ?
Quand je lui ai apporté le livre de Chambre Close, par exemple, il était très content.
Parce que ces femmes nues étaient belles.
Parce qu'il trouvait ça très beau et qu'il s'est mis à défendre mon travail et à l'aimer vraiment. Je crois qu'il l'aimait avant d'ailleurs, mais j'ai eu l'impression de... Particulièrement quand je suis arrivée avec ce livre, j'en ai fait une vingtaine, donc c'était pas le premier, ça devait être le quatrième, cinquième. Je me suis dit, tiens, mais peut-être que... Je comprenais pas pourquoi je faisais ça. Au bout d'un moment, je comprenais pas pourquoi j'étais dans ces chambres d'hôtel sordides, à 3 sous, où il y avait des petits tas de morts aux rats dans les coins, les chambres au coin des gares, les chambres qui sentent mauvais. Je comprenais pas ce que je faisais là avec ces filles. On était tellement proches l'une de l'autre parce que les murs étaient très rapprochés. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis folle ou quoi, d'être là avec la 75e fille au lieu de retourner...
À poil.
Poil, au lieu de retourner... prendre ma limousine et d'aller travailler pour Vogue.
Et en fait, vous le faisiez pour votre père?
Ben, peut-être.
C'était le moteur?
Peut-être. Je ne l'ai pas compris pendant que je le faisais.
Votre père, Maurice Reims, commissaire-priseur, académicien, écrivain, scénariste, un homme de pouvoir, lui. On l'écoute au micro de Jacques Chancel.
Notre invité, Maurice Reims.
Maurice Reims, l'art aura conduit toute votre vie. Vous n'auriez pu rien faire sans lui. Vous imaginez notre vie sans cette curiosité?
Non, je crois pas, non. Je crois, vous venez de dire le mot. C'est plutôt le mot de curiosité qui m'a plus conduit à ma vie qu'encore que l'art. L'art étant, si vous voulez, à une des clés de la curiosité.
D'ailleurs, j'emprunte à votre écriture. Vous dites, l'art ne peut être qu'amour. Lequel amour a volontiers un doigt sur les lèvres. Car ce qu'il vient de voir est si charmant, si secret, si gai, qu'il nous invite par sa réserve à venir jusqu'à lui, et le poussant des épaules à regarder à notre tour par le trou de la serrure, l'art et curiosité.
Ces mots m'ont toujours mis mal à l'aise, pas ceux-là en particulier, mais les mots de mon père. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas réussi à lire ses livres. J'en ai jamais lu un jusqu'au bout.
Pourquoi?
Parce qu'il employait des mots que je trouvais pas toujours propres.
Pourquoi? Je comprends pas.
C'est difficile à expliquer. D'abord, il parlait beaucoup des femmes. Et il parlait des femmes d'une manière qui ne me plaisait pas. Il séduisait des femmes, mon père. C'était son truc. Il se vantait à 80 ans de séduire des jeunes femmes dans la rue et de réussir à les emmener prendre le thé. Je pense pas qu'il faisait beaucoup plus, mais déjà, j'ai toujours eu un rapport de malaise avec son histoire de séduction, de toutes ces femmes qui tournaient autour de lui, de la tristesse de ma mère. Je l'en voulais pour tout ça.
Sur votre mère, vous dites que c'était une femme qui a été écrasée par un homme toujours dans la lumière. Au fond, ça vous heurtait cette image de la mère effacée, écrasée par l'homme?
Ah oui, ça m'a beaucoup heurtée. Et puis ma mère était très malade. Ma mère était malade, elle était enfermée dans une pièce avec une dialyse. Mon père ne venait jamais la voir, elle était seule. Ma mère était une femme assez seule. Puis après, j'ai découvert qu'elle avait quand même réussi à avoir du plaisir et à s'en sortir un peu.
Vous avez voulu la venger, votre mère, d'une certaine manière, dans votre vie?
Non, je ne crois pas qu'il y ait une histoire de vengeance. D'abord, j'ai été mère moi-même, un jour, et je me suis réconciliée. Je me suis réconciliée terriblement avec mon père. On s'est retrouvés ce jour-là. On s'est retrouvés parce qu'il adorait son petit-fils, qu'il a été un grand-père formidable, après avoir été un père lamentable. Et on ne peut pas en vouloir aux gens toute sa vie. C'était mon père, c'était un homme merveilleux, il avait un talent fou, il était séduisant, il était...
mais un père lamentable, dites-vous. Écoutez ce que dit Nathalie Reims, votre sœur, de votre père.
Vous parlez de votre père,
donc en disant papa ou mon père, mais Maurice. Ouais. Comme d'un copain.
Ah oui, un ami, certainement. Certainement un ami très très proche, parce que je sais pas, au départ il n'était pas du tout fait pour être père, il voulait pas d'ailleurs d'enfant. Et puis quand il a rencontré ma mère, ils avaient 25 ans d'écart, ma mère avait 19 ans, il était amoureux d'elle et elle lui a dit écoute, moi je suis d'accord pour t'épouser à condition que tu me fasses des enfants. Et puis Bettina est arrivée, puis mon frère Louis, puis moi, et il a été un père absolument magnifique, mais sur le tard, et... Je sais pas, de temps en temps, je crois que papa sortait, mais véritablement Maurice, parce que je considérais que le rapport était beaucoup plus, en effet, un rapport profond, un rapport très très profond, des liens très, à la fois secrets et terriblement attachés l'un à l'autre, mais papa, c'est pas quelque chose qui me venait spontanément.
Nathalie Reims dans l'émission « Quand je serai grand » avec Philippe Bertrand, c'était sur Inter.
C'est étrange d'entendre deux sœurs parler si différemment d'un même père. Je pense qu'il y a une histoire de génération. Nathalie est plus jeune. Ma mère est partie un moment et elle est restée seule avec notre père. Et donc, ils ont eu ce moment tous les deux. Moi, je suis partie très tôt. Moi, à 16 ans, j'étais partie. Mais je suis jamais revenue.
Donc elle a eu une relation finalement plus simple avec votre père.
Plus simple avec notre père et sans doute plus difficile avec notre mère. Mais il faudrait des heures et c'est à elle de le raconter.
Et c'est pas le sujet,
mais,
là.
Mais oui. Moi, je me suis construite contre lui. Et grâce à lui, je veux dire, je lui dois cet œil, parce que j'ai un œil, un vrai œil.
C'est lui qui vous l'a donné ? Cet œil sur l'art, sur l'objet,
oui,
sur la beauté ?
Oui, ça je lui ai pris. Ça je lui ai pris, parce que les rares fois où on s'est promené ensemble, très peu de fois, on est allé dans des musées ou dans des cimetières, parce qu'il adorait la sculpture et qu'il trouvait que la sculpture était belle dans les cimetières. Et là, il s'arrêtait toujours devant la juste chose, devant le bon objet, devant... On n'allait jamais devant la chose évidente. Et j'ai attrapé ça de lui, oui, je crois.
Grandir dans une famille célèbre, c'est un plus ou un moins ?
C'est les deux. C'est une famille bourgeoise, grande bourgeoise, il y avait de l'argent.
D'ailleurs, on vous a reproché une arrogance de classe.
Bien sûr. Ce qui n'était pas vrai, d'ailleurs. Mes parents n'étaient pas comme ça. Leurs amis étaient beaucoup des artistes. J'ai regretté, d'ailleurs, mes années de rébellion, parce que si j'avais été un peu moins conne, j'aurais dîné avec Man Ray, déjeuné avec Breton, et goûté avec Éluard, ce qui aurait été plus intéressant que mes copains sur des scooters. Mais peut-être qu'à mon âge, on ne savait pas ça. Ça m'a desservi, bien sûr, ça m'a desservi au début beaucoup. D'abord, les gens ne payaient jamais parce qu'ils disaient « elle n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de la payer », donc il fallait tout le temps courir chercher de l'argent.
Et puis fille d'eux, on a dû dire au début, non ?
Oui, beaucoup.
Elle est là parce qu'elle est pistonnée, c'est la fille de Maurice Reims.
C'est la fille de Maurice Reims, et puis un jour, on a arrêté de le dire.
Ouais. Et vous êtes fait un prénom.
Et je me suis fait un prénom, et il a vieilli. Et on a arrêté de parler de lui, et ça m'a fait une peine infinie.
It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got, or you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Try to explain when I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them, you know, not me now. There's a way, and I know I have to go away. I know I have to go.
C'était Johnny Cash avec Fiona Apple, Father and Son. On retrouve tout de suite Bettina Reims qui nous fait visiter son appartement.
Femme puissante, Léa Salamé sur France Inter.
Là, on passe dans une espèce de labyrinthe pour aller au studio de photo. Avant d'arriver à votre studio, il y a les toilettes. Vous pouvez nous décrire les toilettes parce qu'elles sont particulières, vos toilettes, Bettina Reims.
Alors, les toilettes, c'était en quelque sorte mon portfolio. Les gens me disaient toujours, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez un book ou un portfolio? Et puis,
il y en a beaucoup plus que 10.
Et
là,
puis, hein. Le temps a passé. Ah oui, parce qu'il y a, une deuxième pièce.
Voilà. Les deux toilettes, la pièce du robinet et la pièce des toilettes, est tapissée des unes de Paris Match, de Marie-Claire, d'Actuel, de Photos, de Figaro Madame, de Elle, de Citizen K, de toutes les couves que vous avez faites avec toutes les personnes célèbres. Et ce sont vos toilettes. Vous êtes fière de votre travail quand vous voyez toutes ces unes que vous avez faites?
Ça me fait rire. Je ne sais pas si je suis fière, mais ça me fait rire. Ça me fait rire, c'est toute ma vie. Chacune me rappelle un moment plus ou moins amusant, plus ou moins drôle. Certaines ne me rappellent rien du tout, je ne m'en souviens même pas.
Là, on voit, je décris, on voit Vanessa Paradis, Barbara, Caroline de Monaco, Sharon Stone, Catherine Deneuve,
Adjani,
Yves Montand. Ah tiens, un homme. Monica Bellucci.
Pardon. Et lui, c'est quand même un homme.
Lui, c'est Nicolas Sarkozy. Il y a deux unes, Paris Match et Marianne. Vous l'avez beaucoup photographié, Nicolas Sarkozy?
Une fois, mais pendant 3-4 jours d'affilée.
Ça vous a plu?
Ouais.
Pourquoi?
Parce que c'est passionnant de suivre un homme politique, un peu de suivre un chef d'État, c'est formidable.
Et alors, on va sortir de vos toilettes et on va voir la pièce essentielle donc, de cet atelier qui est votre studio photo.
C'est rien, c'est un cube.
C'est un cube, un très grand cube, haut de plafond.
Voilà, et c'est un endroit qui change d'aspect, qui change de tête. Ça devient une chambre à coucher, ça devient... C'est même devenu un jardin, on y a planté des arbres, et ça peut devenir...
Il y a des caisses de vin dans le coin. Qu'est-ce que ça fout là, ça?
Ça, c'est pour une fête qui se prépare.
Ah, j'en saurais pas plus. Merci pour cette petite visite des lieux. On va retourner dans le bureau?
Bien sûr.
Bettina Reims, il y a une photographe, une autre photographe, une pionnière de la photographie que je crois que vous aimez beaucoup, que j'aimerais qu'on écoute. Diane Arbus.
Quand vous regardez une photographie, vous ne pouvez jamais ignorer la présence du photographe. Il se passe toujours deux choses. Une impression de familiarité, et puis le sentiment que c'est absolument unique. Mais il y a toujours pour moi un point où je m'identifie à eux. Si je me trouve en face de mon sujet, au lieu de l'arranger, je m'arrange moi-même.
Diane Arbus, 1980, on est dans l'émission Zigzag sur France 2.
C'est grâce à elle que je suis devenue photographe, ou à cause, ça dépend des jours. Oui, ce sont les premières photos que j'ai vues sur un mur. Et puis j'ai lu la préface d'une biographie qui lui était consacrée, où elle racontait son rapport avec ses modèles. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique.
Qu'est-ce qu'elle disait?
Ah, elle était incroyablement... Alors elle était incroyablement brutale.
Ah oui?
Oui. Elle raconte une scène où elle a allongé une femme sur un lit. Je ne sais plus qui c'est, mais je pense que c'est une femme anonyme. Et puis elle ne veut plus poser. Elle veut se lever, elle veut s'en aller. Et Diane Arbus prend son appareil, se met à califourchon sur elle et avec ses cuisses, coince le corps de la femme et la photographie du dessus.
Ah ben c'est quasiment du harcèlement.
Ça ressemble à du viol.
Bah oui, presque.
Ça m'a paru absolument incroyable de pouvoir en arriver là et de pouvoir le raconter. Et je sais pas, je suis bizarrement tombée amoureuse de cette femme. Elle avait cette espèce de double chose, de brutalité quand elle photographiait et de tendresse pour les sujets et d'amour pour les sujets qu'elle photographiait.
Mais on voit bien quand vous parlez de Diane Arbus, quand vous parlez de votre travail et du rapport au modèle, on voit bien que ça peut être un jeu dangereux. On l'a vu récemment avec le mouvement MeToo et ce qui s'est passé, toute une série de modèles qui ont accusé les photographes et des photographes de renom d'avoir abusé de leur position dominante d'une certaine manière, soit pour les harceler sexuellement, soit pour leur voler quelque chose. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? D'abord, est-ce que vous saviez? Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous regardez ça avec scepticisme? Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça?
Moi, je savais tout ça. Je savais tout ça parce que on travaille tous avec les mêmes équipes, plus ou moins. Et je trouvais ça dégoûtant quand on les voit arriver ici au studio, qu'on fait un casting et qu'elles ont 16 ans, qu'elles ont leur plan de métro dans la poche parce qu'elles sont jamais venues à Paris, qu'elles parlent pas un mot de français mais pas un mot d'anglais et qu'elles se présentent, elles savent pas si elles se présentent chez un homme ou chez une femme, si je suis un photographe ou si je suis autre chose, ou elles arrivent avec leurs photos sous le bras et dans un état de fragilité extrême. Et je trouve ça absolument dégueulasse.
Vous dites vous saviez, vous n'avez rien dit.
Mais c'était pas mon rôle de le dire. À qui l'aurais-je dit? Mais on en parlait entre nous. Oui, bien sûr, on savait. Moi, quand des filles me demandaient des conseils, je pouvais dire à une. Mais enfin, c'était surtout des garçons qui ont harcelé des garçons. Et moi, je photographie pas des mannequins hommes, donc je les ai pas connus ceux-là.
Mais vous saviez.
Je savais. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et ce mouvement MeToo, plus généralement en dehors du milieu de la photo, qu'est-ce que vous en pensez? Cette fameuse libération de la parole de la femme?
Ben, je trouve ça très très bien. Il y a deux choses. Je trouve la libération de la parole de la femme une chose absolument nécessaire, indispensable et très bien. Et je trouve que le dénonce ton porc ou l'idée
balance
de la délation,
ton porc,
balance
ouais.
ton porc. Et moi, je trouve que là, on franchit la limite. J'aime pas ça. Je veux dire, l'espèce de grande messe qui consiste à ce que tout le monde dénonce tout le monde de quelque chose, ça me plaît pas. Je veux dire, ça m'a rappelé comment les Français se sont conduits pendant la guerre.
À ce point?
Ah ouais.
Ah ouais.
Ah ouais. Et puis, on a dénoncé des choses ridicules aussi. Je veux dire, je sais pas, il m'a mis la main sur l'épaule, il m'a dit t'es jolie. Je sais pas, alors la séduction n'existe plus, le droit à la séduction n'existe plus.
Mais peut-être c'est un excès inverse
c'est probablement
à
un
une
excès
situation
inverse pour
excessive.
Retourner
voilà.
à quelque chose de plus raisonnable. Mais je trouve que beaucoup de femmes se sont un peu discréditées en y allant trop fort.
Vous n'êtes pas loin de penser comme Catherine Deneuve, au fond.
Je ne pense pas que ce soit le moyen le plus juste pour essayer de faire bouger les choses, parce qu'après, ce sera quoi? Balance ta pute. C'est vraiment quand même, je trouve, des termes qui sont quand même très excessifs.
Bah, on n'a pas loin d'avoir pas le même âge, mais enfin, on a quand même... Oui, on a vécu les mêmes choses.
Oui, d'ailleurs, c'est étonnant que ce soit souvent des femmes au-delà de 50 ans qui ont trouvé que les plus jeunes qui dénonçaient trouver ça ridicule, c'est-à-dire que,
mais oui, parce que
vous
nous,
êtes les piliers
nous,
féministes.
Ça, nous, on trouvait ça gay, on trouvait ça normal. Je veux dire, moi, quand je... Bon, d'abord, on était tout en short et il n'y avait pas de problème. Mais quand je passais devant un chantier et que les gars, ils sifflaient, on était contentes, on se disait qu'on était jolies aujourd'hui. C'était plutôt bien.
Vous craignez un retour du puritanisme ou d'un côté
oui,
très américain dans
pas,
les relations
je le
entre les hommes
pas,
et les femmes.
Je le vois venir. Je
et
le vois venir.
Et vous n'en voulez pas?
Du puritanisme? Non. Non. Du respect, oui. Je veux dire, on ne pince pas les fesses des femmes dans le métro.
Oui, vous n'êtes pas à dire les frotteurs, c'est très dans le métro, c'est très bien.
Non,
quand
non,
même.
Pas
vous
du tout.
Pas, hein.
Pas du tout. Mais ça conduit à quelque chose du puritanisme, de ces mouvements extrêmement religieux, catholiques en particulier, qui sont contre l'IVG, contre l'avortement, contre le mariage pour tous, contre la GPA, contre tous ces progrès que le monde est en train de faire. Et je trouve ça un retour en arrière absolument terrifiant.
C'est quoi la beauté, Bettina Reims? Comment vous la qualifiez?
Ah, c'est la beauté, c'est un don. C'est un don, contrairement à ce que beaucoup de femmes croient aujourd'hui. C'est pas un chirurgien qui peut vous donner de la beauté. La beauté, c'est un don, c'est quelque chose qu'il y a dans le regard, c'est quelque chose qu'il y a dans la voix, dans la manière de bouger, dans la manière de s'exprimer, dans le rapport qu'on peut avoir avec l'autre, avec, je sais pas, c'est C'est énorme, la beauté. Moi j'adore la beauté. Et beaucoup de femmes, quand elles sont un peu moins jeunes dans la mode, dans le monde dans lequel j'ai vécu longtemps, deviennent jalouses des mannequins et disent d'une fille, tiens, ben celle-là, elle est trop grosse alors qu'elle pèse 48 kilos, ben celle-là, elle a les jambes trop courtes. Je veux dire, moi, j'ai jamais eu ce sentiment d'envie ou de désir. Je suis juste absolument époustouflée par la beauté.
Mmh. Un mot sur la vieillesse. Écoutez ce qu'en dit une actrice que vous aimez beaucoup, Charlotte Rampling.
La question de l'âge, Charlotte Rampling, elle est souvent en permanence. Quand on parle de vous, on dit « elle accepte de faire son âge », comme si vous parveniez à surmonter quelque chose d'indépassable,
oui, comme
pour une
si
femme.
Je parviens, c'est ça. Comme si c'est un voilà.
Vous en pensez quoi?
C'est un exploit.
C'est un exploit ou pas?
Oui, bah j'imagine, parce que tout le monde parle comme ça. Mais comment vous assumez votre âge comme ça? Comme si c'est un exploit, comme si je monte le Mount Everest.
À quoi ça tient, pour vous, la capacité à éveiller le désir? Comment on fait pour être encore désirable, toujours désirable?
Juste d'être vivante.
Le vivant.
Être vivante.
Pourquoi ça semble tellement stupéfiant qu'une femme accepte son âge?
C'est très étrange. Je me demande comment certaines actrices font pour passer devant les dos des kiosques à journaux où on voit leur portrait en grand et puis de rentrer chez elles et de se regarder dans la glace pour se démaquiller et de se dire « je suis la même personne ». Comment est-ce qu'on peut croire soi-même à cette illusion, à cette farce? C'est une farce aujourd'hui. Je veux dire, moi, j'ai photographié des filles qui aujourd'hui ont mon âge et qui ont l'air d'être mes filles. Bientôt, elles auront l'air d'être mes petites filles. Et
vous êtes critique avec la chirurgie esthétique?
Non, je suis pas critique. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Maintenant qu'on s'apprend des proportions.
Vous trouvez ça ridicule qu'une femme de 60 ans veuille faire 35 ans?
Oui, un peu.
Mais justement, toutes ces stars que vous avez photographiées, Madonna, Deneuve, Adjani, Isabelle Huppert, toutes les top modèles que vous avez photographiées également, vous les avez photographiées jeunes, puis dans leur quarantaine, puis dans leur cinquantaine, puis certaines dans leur soixantaine. Est-ce que vous avez vu la souffrance chez toutes ces femmes-là de voir les premières rides, de voir ces visages qui étaient d'une beauté chavirante, prendre de l'âge, prendre du temps?
C'est une chose intolérable pour elles. C'est insupportable. C'est insupportable. Une actrice avec laquelle j'ai travaillé a demandé à être éclairée à la bougie, a refusé que je mette des lampes, a demandé à être maquillée à la bougie. On a mis un tissu noir devant le miroir qui était devant la table de maquillage.
Ça pas se regarder.
Pour pas se regarder, pour pas que les autres la voient comme elle était. Et les séances de retouche sont des choses absolument déchirantes.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces femmes-là? Que vous avez photographié il y a 30 ans.
Beaucoup de peine. C'est pas un métier qui rend heureux. Je pense que le métier.
Actrice ou mannequin.
Mannequin, c'est pas grave. Parce que mannequin, ça s'arrête très tôt. Et donc, celles qui sont intelligentes, elles ont mis de l'argent de côté, elles se feront une autre vie. Et tout ira bien. Pour les actrices, c'est tellement dur d'avoir son physique comme ça, tout le temps en avant et d'être obligée de voir apparaître chaque ride. Je pense que si on est une actrice et qu'on fait de la chirurgie esthétique, c'est normal. Et puis, il y a un problème, c'est que le monde va mal. Le monde va pas bien. Je veux dire, la misère grandit, la planète va pas bien. Il y a des problèmes extrêmement graves. Je suis choquée par cette opulence, cette abondance, mais toute cette espèce de...
De monde du spectacle
qui enfle, qui augmente, que tout ça est de plus en plus riche et le fossé se creuse. Et je suis très révoltée par tout ce que je vois. Et par moments, je me demande si je vais garder cet endroit ouvert, je vais continuer à faire ce que je fais, je peux encore être utile ou servir à quelque chose, ou si je pourrais pas servir à autre chose. Je m'en suis rendu compte vraiment, vraiment, quand j'ai fait ce travail sur les détenus. Quand j'ai passé tous ces mois en prison avec des femmes, je me suis rendu compte de la détresse, de la misère sociale, de la misère tout court.
Votre travail sur les détenus, c'est un homme qui vous a donné l'idée de le faire, d'aller en prison et de photographier les femmes.
C'est Robert Badinter, ouais. C'est lui. Et c'est même pas qu'il m'ait donné l'idée, il m'en a fait une injonction. Il m'a dit, vous allez aller faire ce travail.
On l'écoute.
Dans les cellules, il n'y a pas de miroir.
Les femmes ne se voient pas dans leurs cellules. Il faut qu'elles sortent de la cellule à certains moments pour trouver un miroir. l'objectif, l'œil que constitue la caméra, l'œil de l'autre, d'un seul coup, elle s'y lise en quelque sorte. Et à cet instant-là, vous les voyez se transformer.
Qu'est-ce qu'elles voulaient vous montrer, les femmes détenues, quand elles ont posé pour vous? Qu'est-ce qu'elles voulaient qu'on voie? Qu'elles étaient encore belles, qu'elles étaient encore soignées, qu'elles étaient encore désirables?
Tout ça. Mais c'était pas à moi qu'elles voulaient le montrer. C'était à elles-mêmes. Ou c'était à leurs enfants. Ou c'était à leurs conjoints. Ou c'était à leurs parents. À des gens qui, au bout d'un moment, viennent plus les voir parce qu'on les a envoyés dans une prison très loin de chez elles et parce que ça coûte cher de prendre le train tous les mois pour aller voir quelqu'un. Et qu'à la fin, quand c'est des longues peines, et beaucoup de celles que j'ai photographiées, la plupart étaient des longues peines, c'est-à-dire au-delà de 9 ans, la plupart de ces femmes sont complètement seules. Et c'était comme envoyer une espèce de... une bouteille à la... pas à la mère, mais une bouteille à la famille. C'était comme leur envoyer un signe de dire « Regarde, je suis encore là, j'ai tenu le coup. »
Elles vous ont dit quoi quand elles ont vu les photos ?
4 ou 5 m'ont renvoyé des lettres. Je dirais que la moitié était contente et l'autre moitié pas.
Pourquoi ? Celle qui n'était pas contente, elle disait quoi ?
Que je les avais pas fait sourire.
Qu'elles avaient l'air tristes ?
Qu'elles avaient l'air tristes. Et j'ai répondu, peut-être, mais peut-être que ce jour-là, vous n'aviez pas envie de sourire, ou peut-être que quand on est en prison, on a du mal à sourire. Mais il y en a plusieurs qui m'ont particulièrement marqué.
Qui vous ont appris quelque chose sur la vie, sur les femmes ?
Ah oui.
Sur... quoi ?
Ah oui. D'abord que beaucoup de femmes sont encore des victimes, parce que ces femmes en prison sont en général des victimes et des victimes des hommes. Parce que quand on a eu un père qui vous a agressé, alors on choisit aussi parfois, ou souvent un homme qui va se conduire de la même manière. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait un grand projet depuis, parce que je ne trouve pas quelque chose d'aussi...
fort.
Ouais. Je leur ai vraiment été utile et je leur ai vraiment tendu ce miroir dont Robert Badinter parle et dont il dit que... qu'elles n'en ont pas dans la cellule. Et je ne sais pas à qui je vais trouver, mais je ne sais pas à qui je vais tendre mon prochain miroir et si ce sera avec un appareil photo ou sans.
Il y a le travail sur les détenus dont on vient de parler. Il y a le travail que vous avez fait sur les prostituées. Il y a aussi le travail que vous avez fait sur le genre, les transgenres, les transsexuels que vous avez photographiés. Vous avez été une des pionnières aussi qui a photographié des hommes-femmes, des femmes-hommes, des androgynes, etc. La question de l'identité et le genre. Tout ça, ce sont des domaines qui vous ont intéressé depuis longtemps, Bettina Reims. Est-ce que vous diriez que votre travail ou que vous-même êtes féministe ? Ou engagée ?
Engagée plus que féministe. Engagée, extrêmement engagée. Engagée envers des minorités à montrer des choses que les gens n'ont pas voulu voir.
Est-ce que vous auriez à nouveau, aujourd'hui, réalisé le clip Voyage, Voyage de Désirless ?
Oh, c'était la première fois, j'avais jamais tenu une caméra de ma vie. Il est pas terrible, ce clip. Mais je sais pas pourquoi il est resté, mais je crois que c'est la chanson qui était formidable.
Eh bien, justement, on l'écoute.
J'avais jamais fait ça de ma vie. Très intimidant, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'était une grande productrice, Claudie Ossard, qui venait de produire 37.2 le matin et qui m'avait demandé de tourner ce clip parce que Désirless, elle n'était pas facile et que moi j'étais connue pour m'en sortir bien avec les femmes et les embellir ou les rendre jolies. Et donc je me suis retrouvée avec toute l'équipe de 37.2 le matin qui finissait de tourner le film. J'avais 100 personnes autour de moi qui avaient travaillé avec Jean-Jacques Benex et je savais pas quand il fallait dire moteur ou quand il fallait dire couper. Et donc quand je trouvais que c'était bien, je disais couper, couper, c'est formidable.
Alors c'est le contraire.
Il fallait tourner la caméra. Enfin bon, c'est un souvenir de honte, terrible.
Pour terminer, 2-3 questions de fin, Bettina Reims. Si vous étiez un homme pendant 24 heures, vous feriez quoi ?
La boxe.
Ok, vous pouvez le faire en tant que femme, vous savez.
Oui, je sais, mais je crois que j'aurais pas plus la force.
Quel est votre fantasme le plus inavouable ?
Je crois que je les ai tous, comment on dit, réalisés.
Oui.
Oui.
Tous ?
Oui.
Même les plus cachés, inavouables ?
Les miens, les plus cachés, les miens, oui.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous, Bettina Reims, dans 100 ans ? De vos photos, de votre travail et de vous ?
De mon travail, qu'il a été... quelque chose dans le reflet de cette époque, que j'ai rendu compte des années 90, du début des années 2000, que j'ai ouvert des portes. Et de moi, mais plus personne ne se rappellera de moi. Peut-être mon petit-fils, mais il sera même plus là. Qu'est-ce que je voudrais qu'on dise de moi ? je sais pas, peut-être que j'ai jamais fait de mal à personne, que j'étais une emmerdeuse.
Ah, c'est plus marrant ça. Merci Bettina Reims.
Merci.
Merci de nous avoir reçus chez vous.
Merci à vous.
C'est une chanson, ça n'engage que nos prénoms, dans mes graves articulés. C'est ce que je me dis quand je termine ce couplet. Je sais que ta petite nom, frayée par mes façons, mais quand même cette chanson est une pensée, moi qui sais te trouver. Tout vient par grand froid de ta bouche labée. C'est comme si ce n'est, tu me mets plus fort, baby. C'est comme si ce n'est, tu me mets encore. C'est comme si ce n'est, tu peux presque le replacer. Je me dis quand je pars en morceaux, tu ne sais pas me regarder. Et ma voix de chevalier rend justice à ma beauté. Plus douce et tranchante quand je me raconte. Ma langue est le seul corps qui vraiment compte.
The Queens, à l'instant sur France Inter, comme si. Merci à Bettina Reims. Cette émission a été préparée par Outi Shraniti, Céline Villegas, Mathieu Sarda, Pauline Loquès et Marie-Elisabeth Jacquet. À la prise de son, Frédéric Quérou. À la réalisation, Sonia Leglaine. Bel été à tous. La semaine prochaine dans Femmes Puissantes, ce sera elle.
Dirigez plus jamais.
Pourquoi ?
Ben parce qu'ils vous prennent... pour un tronc avec des seins et un cul.
Ce que vous dirigez quand vous étiez patronne de France Culture,
non,
vous preniez
pour... Non,
je parle
de mes ennemis, je ne parle pas des personnes avec qui j'ai travaillé.